grand témoin. Bonjour et bon dimanche chez vous. Heureuse de vous retrouver pour vous présenter celui qui sera notre grand témoin avec moi dans ce studio, l'ingénieur Antoine Miltoni Mbangu. Il est directeur technique aux lignes aériennes congolaises et ancien directeur général adjoint à Air Zaïre. Monsieur Mbangu, c'est un plaisir de vous recevoir dans Grand Témoin.
Moi aussi, je suis satisfait.
Alors avec vous, dans notre entretien, on va vous présenter auprès des auditeurs de Radio Capi qui nous suivent en ce moment partout en RDC et même à l'étranger. Grâce à notre site internet www.radioocapi.net, vous allez partager avec nous votre expérience dans l'aviation. Vous avez passé beaucoup de temps, plus de 40 ans en tout cas, dans l'aviation, mais aussi vous donnerez votre point de vue par rapport à la création de cette nouvelle compagnie aérienne congolaise, Congo Airways. C'est tout à l'heure dans Grand Témoin. Avant cela, on va faire un grand pas en arrière, en tout cas un grand pas, pour parler de votre enfance. Vous êtes né où et quand?
Je suis né à Kinshasa, à l'hôpital Mamayimo, à l'hôpital général de Kinshasa.
En quelle année?
Le 2 avril 1939.
Alors, vous avez passé votre enfance à Kinshasa?
Exactement, je suis jamais pratiquement sorti de Kin. Lorsque je suis né, je crois que mes parents ou mes grands-parents qui habitaient la commune de Kinshasa actuelle, à l'âge de l'école, j'ai commencé à l'école des sœurs, en face du stade Cardinal Maloula à Saint-Pierre. Et en 1946, je suis allé à l'école des garçons. Nous avons été ouvrir Saint-Paul. L'école Saint-Paul, j'ai fait 2 années là-bas et puis je suis rentré à Saint-Pierre parce que là où nous habitions était plus près de Saint-Pierre. Et après la 3e année primaire, je suis monté au collège Saint-Joseph à la mission Sainte-Anne à Gombe où j'ai fait tout mon cursus. L'école primaire terminée, l'école secondaire, et je suis sorti en juillet 1958, diplômé dans la section commerciale. De telle sorte, quand je suis sorti, j'avais mon brevet pratiquement d'être comptable. Okay. Et c'est ce que j'ai fait. Nous avons pratiquement toute la promotion été engagée par le groupe Unilever.
Après l'obtention de votre diplôme?
Oui, immédiatement là.
Vous avez pratiquement étudié dans des écoles catholiques.
Catholiques. Mais quelques mois après, en groupe, puisque nous étions avec des amis, on s'est dit non, autant que nous continuons, nous sommes allés nous inscrire à l'Ovanium pour faire l'année préuniversitaire. Parce qu'en ce temps-là,
en 58.
Nous sommes la promotion de la préu du 20 septembre 1958. Nous sommes rentrés au campus. Là, pour obtenir d'abord l'homologation de nos diplômes. Puisque nous avions les diplômes congolais, il fallait qu'ils soient homologués et situés au niveau belge de l'époque. Et moi, j'ai fait la préu C, qui correspond pratiquement à la préu maths physique. En même temps, j'ai préparé aussi la préu scientifique. C'est ainsi que au mois de juin-juillet, j'ai passé le jury central pour l'homologation de mon diplôme. Et en septembre, je suis allé présenter l'examen d'entrée pour les faire des études d'ingénieur.
Vous avez grandi dans quelles conditions, M. André Miltoni?
Bon, des conditions normales, puisque je suis d'une famille modeste. Mon père, il était dans les constructions. C'était un ancien fonctionnaire de TP.
Travaux publics?
À Matadi, quand il avait regagné Kinshasa avec les années 1936, je crois, ce qu'il me disait. C'est les TP qui l'ont embauché au départ de Matadi, jusqu'ici. Et là, il est sorti, il est entré dans les sociétés parce qu'il y avait des ingénieurs qui étaient ses patrons qui étaient dans les TP qui ont créé des sociétés Bakongo, Rosten. Et finalement, mon père était dans Oxeltra Béton comme conducteur de chantier. Et parfois, je me dis que si j'ai été attiré par les études d'ingénieur, parce que mon père me parlait souvent de son patron, l'ingénieur Rosten.
On rappelle que vous avez eu une enfance normale.
Normale.
Vous êtes d'une famille modeste.
Oui.
Alors, Antoine Miltoni, quelque temps après l'accession du Congo à son indépendance, vous décidez d'aller en Europe pour poursuivre vos études.
Oui. Mais simplement, en juin, avec les événements qui ont suivi la proclamation de l'indépendance. Bon, il y avait une certaine incertitude, puisque les profs étaient tous expatriés. est belge essentiellement, plusieurs voulaient partir. Alors, en cela, moi j'étais en première candidature. Je faisais la première candidature ingénieur et première candidature en sciences mathématiques et physique. Et quand les événements ont éclaté, on hésitait. Bon, il y a des amis qui voulaient attendre, mais moi, bon, j'ai eu, pour ce que j'appelle pour moi une chance, de dire non, je préfère passer mes examens en première session. Parce qu'on ne sait pas si les professeurs reviendront. Et j'ai passé tous mes examens en première session, en cumulant la première candidature ingénieur avec la première candidature en sciences mathématiques et physiques. Et au moment de la délibération, on m'a demandé, on vous délibère en quoi? Ah bon, j'ai fait pile ou face.
Vous avez choisi ingénieur.
Et parce que j'avais peur de la chimie. Uh-huh. Hein? Bon, ingénieur, et Dieu merci, j'ai réussi. Donc, j'ai réussi en première session, ma première candidature.
Et comment vous vous retrouvez en Europe?
Bon, on se trouve en Europe, d'ailleurs, c'est une chance aussi. Dans la rentrée, c'était toujours au mois d'octobre. Il y avait, avec les événements, il y avait les commissaires généraux. Et on a fait avec Mboumboko et les autres là, le collège des commissaires généraux. Et parmi les commissaires généraux, il y avait nos grands du collège, notamment l'honorable Mario Lossembe. Uh-huh. C'était un ancien du collège qui nous connaissait bien. Nous étions leurs petits, etc. Et lui était, je crois, commissaire général ou commissaire général adjoint à l'éducation. Et comme une fois, les Belges avaient offert des bourses. Il m'a retrouvé quelque part à la cité, là. J'étais d'ailleurs en train de jouer au foot. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu attends des bourses pour aller en Europe? Ah bon, du coup, on s'est informé avec quelques amis. Nous sommes allés remplir nos papiers. Et voilà, nous sommes partis au mois d'octobre. Nous sommes partis en Europe.
Et donc, vous vous retrouvez en Europe grâce à une bourse que les Belges avaient offert aux étudiants congolais. Et là, vous continuez vos études
À l'Université de Liège.
Vos études d'ingénieur.
Ingénieur et aussi matériel. Je fais aussi les maths parce qu'entre-temps, j'étais délibéré pour la deuxième session. J'avais réussi aussi. Donc, là, pour les candidatures, je les ai continuées. Ma deuxième candidature à l'Université de Liège.
Et après l'obtention de votre diplôme, vous êtes resté une année encore en Europe, en Belgique.
Comme quand j'ai terminé, par la chance, disons, j'avais terminé avec distinction. Et le professeur Frankiel, un des éminents professeurs de l'université, qui nous donnait les cours d'électroacoustique et de radioélectricité, qui avait été aussi recteur de l'Université officielle du Congo de Lubumbashi, le professeur Frankiel. Ah bon, c'est lui d'ailleurs qui m'a donné le moins de points. Ah bon, s'est intéressé à moi, m'a proposé de rester faire un an de recherche dans son institut d'électroacoustique. Alors j'en ai profité pour faire des compléments d'électronique, ainsi que d'ingénieur électromécanicien. J'étais aussi ingénieur électronicien et en ce temps-là, un aîné qui était DG à Air Congo, M. Aubert Mukendi, s'intéressait déjà à nous. Bon, pendant cette année-là, comme j'avais du temps, je faisais des études complémentaires, je faisais des recherches à l'Institut de l'électroacoustique, j'ai fait aussi les compléments en mécanique aéronautique. À la fin de cette année-là, bon, le professeur Frankiel, je dois dire la vérité, était trop impliqué dans la politique congolaise. Hein, c'était ceux qui avaient fait le Katanga, le Katanga indépendant. Il se fait malheureusement que moi aussi, pendant les dernières années, j'étais président de l'UGEC, et même de l'UGEC Belgique, l'Union Générale des étudiants congolais de Belgique. Donc pratiquement, nous étions aux antipodes. Nous étions des nationalistes qui luttions pour l'unité congolaise. Bon, là, le sillage de Liège, il y avait beaucoup de profs qui étaient pour le Katanga indépendant. Bon. j'ai trouvé une opportunité par le professeur. J'ai proposé au prof que je voulais aller à l'industrie. Il y avait Philips et ASEC qui s'intéressaient à moi. J'ai préféré aller aux ASEC parce que là-bas, c'est de l'électrotechnique. Ils construisaient les machines. Et c'est là où j'ai passé une année.
Avant de rentrer
ici au pays.
Au pays en 1966.
Six, voilà.
Et lorsque vous revenez au pays en 1966, vous êtes directement engagé à Air Congo?
Oui. C'était pour moi d'ailleurs une chance, je dois dire. Pourquoi? J'ai dit tout à l'heure que j'étais président de l'UGEC Belgique. Et l'UGEC Belgique était le fer de lance. Ici chez nous au Congo, même en ce temps-là, en 65, le président Mobutu venait de prendre le pouvoir ici. Bon, nous les étudiants, nous disions ce que nous pensions de tout cela. Et il y avait, je suis venu en septembre 66 au congrès de l'UGEC. Et en ce temps-là, le président Mobutu s'intéressait aux intellectuels, notamment nous, qui avons déjà terminé. Moi, puisque j'ai terminé en 64, nous étions en 66. Bon, on m'a proposé des postes politiques que j'ai rejetés. Et c'est pour ça que j'ai préféré plutôt rentrer, aller à Air Zaïre, à Air Congo, où il y avait un aîné, en la personne de Robert Mukendi, puisque lui avait été aussi dans la même université que moi, à l'université de Liège. Moi, ça m'a permis de ne pas aller dans le circuit politique, mais de rentrer plutôt dans le circuit de l'industrie.
Alors, comme je l'ai dit, vous avez fait presque toute votre carrière dans l'aviation. Après Air Congo, à un moment, vous avez travaillé comme conseiller à la présidence.
Oui, exactement.
C'était dans quel secteur?
Non, vous savez que en fin 71, le gouvernement avait conclu un accord de coopération avec Pan American Airways, qui était la grande société américaine, pour venir assister en quelque sorte Air Congo. Et bon, en ce temps-là, la présidence m'a offert d'aller à la présidence d'abord comme chargé de mission. J'ai dû aller comme commissaire de gouvernement dans le Kibali Turi de janvier à juin 72 pour relancer l'office de mine d'or de Kilomoto qui était en train de flotter. Au retour de là, en mois d'août, peut-être pour me récompenser, j'étais nommé comme vice-président, un des vice-présidents de l'Institut de gestion du portefeuille, spécialement chargé de l'industrie lourde. Et cela jusqu'au 30 novembre 73, quand l'IGP était dissoute. Immédiatement, j'ai regagné Air Congo.
Air Congo, qui avait changé de dénomination,
oui,
qui était devenu Air Zaïre.
Oui, oui, oui. Oui, il était déjà Air Zaïre, puisque c'est le Zaïre, c'est à 71, oui.
Vous vous retrouvez à Air Zaïre et là, vous avez gravi presque tous les échelons jusqu'à vous retrouver le directeur général adjoint.
Oui, en 74, exactement.
En 74,
exactement. J'étais choisi par les Américains pour passer en juillet comme directeur général adjoint de M. Claude Hutt, qui était directeur général.
Ah, donc ce sont les Américains qui nommaient les gens?
Non, c'est oui, mais puisque le directeur général, le Panam, avait la direction générale de l'entreprise, c'est elle qui avait la mission de proposer au gouvernement qui pouvait être promu. Et j'ai été promu directeur général adjoint.
C'était pas une compagnie congolaise, Zaïroise à l'époque?
Non, il y avait l'assistance Panam.
Okay.
De Pan American Airways, donc qui avait conclu un contrat avec l'État, et la Panam avait la direction générale. Eux devaient choisir parmi les cadres congolais qui pouvaient être directeur général adjoint. Bon. Ils m'ont choisi comme directeur général adjoint parce que comme j'évoluais toujours dans la partie technique de la maintenance des avions, qui est un des points, une des parties les plus importantes d'exploitation aérienne. Si vous n'avez pas la maîtrise, la maintenance des avions, c'est un peu compliqué. Hein? Mm-hmm. Alors, bon, quand je suis rentré de l'IGP, bon, le Paname qui avait pris la gestion d'Air Zaïre avait des problèmes, notamment au niveau de la maintenance. Ce qui fait que j'ai dû d'abord mettre un peu d'ordre là-dedans, essayer d'aider le directeur général, directeur technique américain qui était là pour remettre les ordres. Et puis quand tout est rentré dans l'ordre, on m'a récompensé que je devais passer maintenant comme DGA pour coiffer aussi les opérations aériennes.
Air Zaïre a fait la pluie et le beau temps. Les gens étaient satisfaits du service que fournissait cette compagnie aérienne. C'était quoi le secret?
Non. Vous savez, ce qui a fait la force de la compagnie, c'est qu'elle a toujours opéré selon les normes, selon les standards internationaux. Hein? Même sa naissance, elle n'est pas née ex nihilo. Elle est née d'abord de la volonté qu'avaient Lumumba et Kasavubu au lendemain de l'indépendance, suite à des événements, on doit créer la compagnie. Mais ils ont mis un peu de temps et la compagnie est née pratiquement un an après, avec les gens qui l'ont préparée. On a évolué. Parce que la chance qu'on a, un, le pays lui-même, c'est un continent, c'est un pays qui ne peut exister qu'avec l'aviation. Donc on peut dire que le commerce existe. Sa situation géographique fait que pour l'Afrique aussi, il peut servir de hub, c'est-à-dire de point d'éclatement de trafic nord-sud, est-ouest, c'est... Et puis en plus de cela, tel que nous sommes avec les Européens en tant que pays qui doit se développer. Donc tous ces facteurs mis ensemble étaient des ingrédients que la compagnie devait évoluer pour satisfaire cela. Et pour réaliser ses ambitions, on devait se situer au standard de toutes les grandes compagnies. C'est comme cela que vous verrez que Air Congo, Air Zaïre ou LAC, si pas fondateur, mais a fait partie de toutes les grandes organisations professionnelles. Jusqu'aujourd'hui d'ailleurs dans ce pays, LAC est seul membre de l'IATA. Il était membre fondateur, il est toujours membre, il est un peu suspendu pour des problèmes que nous connaissons, mais il est membre. Il est membre fondateur de l'AFRA, la Société des compagnies aériennes africaines. Donc, tout cela fait que, d'abord, l'ambition même que nous avions, c'est que nous voulions être comme faire l'aviation tout court, pas faire l'aviation à la congolaise, respecter les normes. Et c'est ça qui a fait la force de la compagnie. Alors, nous avons eu aussi l'appui institutionnel à partir de Kasavubu. Quand il sort son décret-loi le 6 juin 1961 et que le 28, l'ordonnance a des portants statuts de la compagnie, bon, l'autorité a toujours été près de nous, nous suivre, nous soutenir dans toutes les actions. Il est vrai que malgré les promesses qu'il y avait que des subventions matérielles, nous pouvons dire que la compagnie n'a jamais reçu un rond en monnaie comme telle. Elle a reçu l'appui. Quand nous devons acheter des avions, nous avons besoin de garanties. L'État nous a donné la garantie souveraine, nous a soutenus. Nous avons, on peut dire que bon, le président Mobutu, vers les années 90, c'est la seule fois qu'il a, on nous a donné 1 million, qui est comme à compte pour continuer à acheter des avions. Et cet argent est toujours à la disposition de la compagnie auprès de Boeing. Mais en dehors de cela, nous avons eu l'appui institutionnel. Ils nous ont soutenus dans tout ce que nous avions. Et la compagnie, grâce aux multiples potentialités qu'offre le pays lui-même, sa situation géographique, eh bien, nous avons pu acheter nos avions, nous avons pu moderniser nos infrastructures. Avant la création de la RVA, c'était Air Congo qui supportait toutes les charges de l'aéroport, eau, électricité.
Alors, vous êtes aujourd'hui directeur technique aux lignes aériennes congolaises, LAC, qui n'existe plus que de nom. Comment vous expliquez ce déclin des lignes aériennes congolaises?
Madame, vous savez, le succès de la compagnie, sa force de frappe, ce qu'elle était, est un peu la base d'un certain nombre de nos problèmes. Parce que LAC était un nom. Un nom qui signifiait beaucoup de choses. Et tout le monde a les yeux braqués. Bon, qu'est-ce qui se fait? C'est qu'au fil du temps, nous avons des problèmes avec le gouvernement. Dans ses triples qualités. Le gouvernement, je l'ai dit tout à l'heure, c'est notre propriétaire. Quand vous êtes propriétaire, vous devez être un peu plus regardant, occupé, vouloir le bien, etc. C'est des problèmes. Deux, c'est le client. Et le gouvernement, c'est un des grands clients. Et au moment où je vous parle, les difficultés sont... Pourquoi? Parce que la compagnie s'est retrouvée en difficulté de cash flow. Et l'État nous devait jusqu'à 25 millions et même au-delà de 30 millions. Donc, ça pose problème. Donc, j'ai dit, en tant que propriétaire,
en tant que client,
et aussi en tant que pouvoir public, on a constaté qu'au fil du temps, comme on dit, l'aviation, c'est une jolie fille. Tout le monde va essayer de courtiser. Alors, bon, en tant que pouvoir public, l'État devait veiller à l'application stricte des normes, puisque j'ai dit tout à l'heure que Air Zaïre, Air Congo, LAC travaillent selon les normes. Donc, maintenant, qui libéralise le transport aérien, notamment domestique, il faut que ceux qui viennent soient aussi astreints à respecter les normes. Malheureusement, nous avons pu constater que ceux qui venaient, il y avait une tolérance inacceptable, ne respectant pas les normes, n'opérant pas selon les normes, la concurrence devient déséquilibrée. Alors, ça, c'est donc, il y a le comportement de l'État. Et puis, c'est l'État aussi.
L'État est en quelque sorte responsable de ce qui arrive à LAC aujourd'hui.
Oui. C'est l'État aussi qui nomme les mandataires, mais qu'il ne contrôle pas. Parce que c'est bien, vous nommez mandataire, il faut savoir lui demander des comptes. S'il ne lui demande pas des comptes, et on a constaté qu'au fil du temps, on nommait les mandataires pas pour faire des performances. Bien au contraire, c'était pour des raisons que nous ignorons, mais le résultat, c'est que les performances de l'entreprise ont commencé à baisser. Donc, c'est ça qui est à la base des difficultés que nous avons connues, que nous connaissons d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui. Et malgré ces difficultés, nous avons gardé des multiples potentialités qui peuvent être mobilisées rapidement pour une reprise. Il suffirait de mettre en place un leadership, je veux dire, responsable et avisé. Responsable pour comment? Qui a une vision. Qui a une vision pour faire du transport aérien normalisé.
Monsieur Miltoni Mbangu, on va souffler un peu avant de poursuivre notre entretien. Comment vous passez vos moments de détente?
Bon, d'abord, j'aime le sport, le football particulièrement. Je partageais mon emploi de temps avec le football. J'ai été dirigeant. Ah, je suis toujours administrateur dans un club, un des grands clubs du pays, le DERIC, le DSMP. Ça, c'est là où je passe mon temps, le maximum de le sport.
Vous aimez la musique?
Si, si. Et quand nous étions élèves, d'abord, comme élèves, nous étions l'Engembo de Vieux-Calais, notre grand frère. Depuis 90, je suis parmi ceux qui ont créé Banaoke avec Simaro qui est là. Parce que quand le Loke Jazz était disloqué, il fallait que nous, les Kinois authentiques, nous n'avons pas autre chose, que nous allons faire renaître cela. Et je suis de ceux qui sont derrière Banaoke aussi.
Alors, si je comprends bien, vous aimez la musique, c'est normal, hein, puisque vous êtes parmi ceux qui ont créé ou fondé Banaoke. Ça veut dire que vous aimez la musique des Banaoke.
Bien sûr que oui.
Alors, quelle chanson pourrait vous faire plaisir en ce moment?
Vous me prenez de court.
Une chanson qui vous vient à l'esprit.
Qu'on trouve une chanson de Simao, n'importe lequel.
Alors Jean-Claude Salard, qui est de l'autre côté de la baie vitrée, va nous trouver une chanson de Lutumba Simao pour le plaisir de l'ingénieur Antoine Miltoni Mbangu, mais également pour le plaisir de tous les auditeurs qui nous suivent en ce moment, qui aiment la musique des Banaoke. Je sais qu'ils sont nombreux à travers la RDC et même à l'étranger. On va écouter la chanson et puis on se retrouve juste après pour la suite de notre entretien.
Merci.
Kilanzamba takwe boy night nasara niyo koyatika kamot. sambo ba pesi na toli na luka mo bali mo soso. Dika nga na benando na moni kaka e talili bala na ngai te sapi. Afanda na mosi na tambu sa e moto na ke na na kote na na. Na bote mara suke ringa kanga e te omi na zina mo kina sambo ata kwe mo ingai na sala niyo.
Ils parlent de leur vie, de leur parcours et se livrent à cœur ouvert. Grand Témoin invite des femmes et des hommes de culture, des acteurs politiques, sociaux et du monde économique qui ont croisé différents événements et les changements qui ont accompagné les grandes étapes de la construction du pays. Grand Témoin, 45 minutes pour mieux comprendre notre histoire commune, racontée par ses acteurs. Tous les dimanches, 12h15, heure de Kinshasa, en compagnie de Kéline Kouté sur Radio Okapi.
Grand Témoin vous fait découvrir ingénieur Antoine Miltoné Mbangou, directeur technique aux lignes aériennes congolaises, ancien directeur général adjoint Air Zaïre. Ingénieur Antoine Miltoné Mbangou, Congo Airways, c'est la nouvelle compagnie aérienne congolaise qui a vu le jour. Un soulagement pour les Congolais?
Bon, ce que j'en pense simplement en tant que professionnel et compte tenu des besoins de notre pays, on ne peut que se réjouir qu'il y ait un opérateur de plus pour faciliter les déplacements des biens et des personnes dans notre pays. Comme je l'ai dit au départ, la RDC est un continent qui ne peut l'être que si à l'avion. Compte tenu de l'état de développement des autres moyens et dont d'ailleurs j'ai dit le développement coûterait beaucoup plus cher. Par contre, l'avion, c'est tout de suite. Donc, ça nous rapproche, ça fait le brassage des populations, etc. Et en lingala, on dit bilanga, eza monene. Et il faut trouver beaucoup d'opérateurs. Mm-hmm. Regardez, Nous sommes combien de fois plus grands que la France. Si vous voyez la flotte d'Air France, vous pouvez comprendre. Turkish Airlines, vous pouvez vous demander, vous verrez, etc. Mais nous, d'abord, il y a très peu d'avions. Bon, la population ne fait qu'accroître. On parle, nous sommes 60, 70 millions. Comment faire pour déplacer tout ce monde-là? L'avion est l'instrument le plus, disons, je dirais même le plus sûr. Parce que si on exploite selon les normes, assez rapidement, nous pouvons atteindre un certain niveau de développement. Mais par-delà, la satisfaction qu'on peut avoir, je vous mentirais si je disais que je n'ai pas d'inquiétude.
Qu'est-ce que vous inquiète?
Vous savez, le processus de création de la compagnie ne semble pas avoir obéi à un certain nombre de normes ou de critères. Parce que la création d'une compagnie aérienne, surtout qui se dit national, qui doit être une compagnie de référence, qui doit opérer de manière normalisée, nous avons toujours dit, postule à une réflexion profonde, compte tenu de la complexité des problèmes sur le plan juridique, sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan humain, sur le plan technique, sur le plan opérationnel. Et cette réflexion doit indiquer la voie à suivre.
Mais ça a été fait avant la création de cette compagnie aérienne, M. Miltoné.
Enfin, je n'en suis pas tout à fait au courant, mais dans la profession, il n'y a pas de secret. Hein? Il n'y a pas de secret. Nous savons suivre. Il y a des études qui ont été effectuées depuis 1996. 1996, dans la plupart des sphères, on compte tenu des problèmes, des difficultés que la compagnie Air Congo Lac était en train de rencontrer. Beaucoup de gens déjà parlaient que mieux vaut qu'on crée une compagnie, une nouvelle compagnie, pour résoudre peut-être les problèmes. Alors il fallait commencer à dire, bon, quels sont les problèmes qu'il faut résoudre, hein? Et la médication à donner à ces problèmes-là. Mais bon, supposez que vous ayez une plaie, par exemple. Vous qu'est-ce que vous faites? Avant de mettre un bandage, on nettoie d'abord à l'alcool. Et une fois qu'on a fait, on peut mettre à l'eau du mercurochrome et faire le bandage. Mais si on ne le résout pas, on ne règle pas certains problèmes. Si cette compagnie se retrouve dans les mêmes conditions, hein, il est à parier qu'il aura les mêmes problèmes. Mieux encore, l'histoire de l'aviation depuis la libéralisation nous a appris. Il y a beaucoup de compagnies qui sont nées. Hein, vous êtes là, jeune, vous avez certainement eu beaucoup de bruit. Vous avez entendu des Chabert, des Wabora, Bravo, etc. Est-ce que les gens se sont posé la question? Pourquoi ces compagnies naissent et disparaissent à la même vitesse? Si aujourd'hui on crée Congo Airways de la même manière, est-ce qu'on peut garantir qu'on ne disparaîtra pas de la même manière? Parce que dans l'aviation, il y a trois choses: les hommes, le matériel et la documentation. Les hommes, dans tous les secteurs, nécessite une qualification. Le matériel, il n'y a pas que les avions. Il y a le matériel de mise en œuvre, matériel de servitude, comme on dit. Il y a les outillages, il y a les infrastructures. Il faut en avoir. Et puis, les circuits d'information, la DOC. Bon, si je prends les deux premiers, bon, les infrastructures, c'est plus simple pour vous. Zéro.
Vous pensez que la compagnie n'a pas d'infrastructure adéquate?
Pas encore. On ne lance pas une compagnie sans infrastructure, sans rien. Même pas un clou. L'autre fois, je faisais dire même aux gens que, bon, voilà, un vol comme celui qu'on a fait, un vol inaugural. Hein? Bon, on se retrouvait à Lubumbashi. Il n'y a pas. Il fallait qu'on rajoute un peu d'huile moteur. Il n'en avait pas dans le lot de bord. Non. Dans l'aviation, on faut prendre les choses au sérieux. Hein? Là-bas, on navigue ça sur l'arête. Le moindre pépin. Les accidents, c'est quoi? C'est une accumulation de petits problèmes, de tout petits, qui font. Personne n'aurait cru aujourd'hui que Ewabora aurait disparu. Comment? Le bon Dieu, nous sommes tous là, nous.
Alors, vous le dites parce que vous travaillez aux lignes aériennes congolaises et que cette compagnie a été abandonnée par le gouvernement pour créer Congo Airways.
Non, il faut dire la vérité. Hein? Le gouvernement peut créer des compagnies, hein? Mais il ne faudrait pas que ce qu'il a fait à Air Zaïre, il le fasse à Congo Airways, hein? Ça d'abord, nous disons ça. En plus de cela, il ne faut pas qu'on fasse comme un corollaire, hein? Nous allons tuer Air Zaïre pour créer Congo Airways. Nous créons Congo Airways pour tuer. Non. dans d'autres pays, hein, on aurait dû laisser les compagnies évoluer. Je vous cite le cas en France. Vous avez Air France. Avant, il y avait Air Inter, UTA, etc. Maintenant, vous avez Air France, vous avez Transavia. En Allemagne, vous avez Lufthansa et Eurowings. South African, vous avez South African Express. Parce que vous avez une compagnie qui a pignon sur rue, qui a des racines, comme Air Zaire. Uh-huh. Vous voulez créer une autre compagnie ex nihilo. C'est bien. Elle aura besoin, certainement, de sa grande sœur. Même déjà maintenant, comme vous voyez quand ils partent à Lubumbashi, les escaliers sont acquis. Donc, il fallait laisser évoluer, peut-être avec de nouvelles méthodes, tout ce que vous voulez, pour qu'au moment où il devient opérationnel. Opérationnel, c'est pas en une journée, ça prendra un an ou deux ans.
Alors qu'il y a beaucoup de choses à dire par rapport à tout ça, la réalisation me signale malheureusement qu'on n'a plus beaucoup de temps. Oui. Il faudra conclure, Monsieur Milton. C'était un plaisir de vous recevoir dans Grand Témoin, d'échanger avec nous votre expérience dans l'aviation. Peut-être un dernier mot à dire à tous ces auditeurs que nous suivons en ce moment sur Radio Capi.
Non, à tous les auditeurs, puisque nous avons parlé aviation, il y a d'abord ceci, c'est que nous souhaitons vivement que l'industrie aéronautique en matière de transport aérien soit au top dans notre pays, parce que c'est un instrument, un des meilleurs instruments de promotion socio-économique pour notre pays. Et ce que je souhaite vivement, que nous puissions avoir des compagnies performances. Hein, l'imaginaire public a connu les performances d'Air Zaïre. Nous n'avons jamais perdu des personnes. Et ça nous fait mal au cœur. Après qu'on a eu, nous sommes considérés comme une concentration d'accidents. Donc il faudra que nous quittons cela pour que nous revenions la vraie compagnie, le pays de la vraie aviation. L'aviation tout court.
Merci beaucoup, ingénieur Antoine Miltoni Mbangu. C'est la fin de cette émission. Je rappelle que je recevais Monsieur Miltoni Mbangu, directeur technique aux lignes aériennes congolaises, ancien directeur général adjoint à Air Zaïre. Merci à Jean-Claude Siala qui était à la prise de son au micro Kéline Couté. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.radiocapit.net. Bon dimanche chez vous et bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.